carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Cette année 2011, le monde musical commémore la naissance d'un merveilleux musicien, d'un homme totalement hors du commun, et je dirais même d'un créateur profondément original, Jean Alain. Et si Jean Alain, qui est très connu des organistes dans le monde entier, ne l'est pas suffisamment des mélomanes en général, notamment pour sa musique d'orchestre, sa musique de piano, sa musique vocale, c'est qu'il a connu ce drame terrible. Il est mort au champ d'honneur, il a été tué au cours d'une mission de reconnaissance près de Saumur en 1940, en juin 40, à l'âge de 29 ans. Et ainsi s'est brisée une carrière qui déjà, dans les nombreuses œuvres qu'il a laissées, ne s'annonçait pas, était déjà une carrière d'importance et s'annonçait particulièrement prometteuse. On sait par exemple qu'en matière d'orgue, il a été le condisciple de son ami Olivier Messiaen, qui a, Dieu sait, fait l'immense carrière publique que nous connaissons. Et je pense que s'il eût vécu, Jean Alain se serait affirmé comme un créateur, non seulement à part entière, mais au même niveau que Olivier Messiaen, mais dans un genre complètement différent, avec sa personnalité à lui. Et pour parler de Jean Alain beaucoup mieux que je ne le ferai moi-même, eh bien, j'ai à côté de moi Aurélie Decour, qui est historienne, qui est professeure d'histoire en classe préparatoire, qui est docteur en musicologie à Paris-Sorbonne, qui est surtout la nièce de Jean Alain, directement, puisque sa mère, Marie-Claire Alain, la très célèbre organiste mondiale, la grande dame de l'orgue, comme on l'appelle, Marie-Claire, est la petite sœur de Jean Alain. Et que dans la famille Alain, on baigne dans la musique depuis toujours. C'était votre cas, Aurélie, forcément.
Oui, forcément, bien sûr. Un grand ami de la famille, l'abbé Pierre de Porcaro, vicaire saint-germanois, disait « Les Alains, ils sont tous nés dans un tuyau d'orgue ». Et à la limite, je peux reprendre aussi ce petit proverbe à mon compte, car je suis née dans la maison familiale au 46 rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye, et j'ai donc été bercée, comme les enfants Alain, par les sonorités de l'orgue, et je me suis promenée dans l'orgue quand j'étais petite fille.
Alors, se promener dans l'orgue, il faut savoir que c'était un orgue important de 4 claviers, fabriqué entièrement par votre grand-père, Albert Alain.
Entièrement par Albert Alain, oui. Un chef-d'œuvre artisanal absolument extraordinaire, là aussi. L'œuvre de toute une vie, une œuvre de passion, de trouvailles techniques aussi, et un orgue qui, sur le plan esthétique, on y reviendra peut-être, était extrêmement original, à l'image de son créateur.
On y revient. Vous avez cité Saint-Germain-en-Laye, où vous êtes né. C'est le siège de la famille Alain depuis 4 siècles, je crois me rappeler. Et d'ailleurs, à ce titre, vous êtes maintenant président d'une association qui existe depuis 3 quarts de siècle, et qui est l'association Les Amis du Vieux Saint-Germain. Il y a un passé historique extraordinaire, exceptionnel d'ailleurs à Saint-Germain, pas seulement le château et son musée, beaucoup d'autres choses.
Beaucoup d'autres choses, et en particulier au XXe siècle, à travers l'association Les Amis du Vieux Saint-Germain, mais à travers surtout l'amitié avec la famille Alain, se détache le grand personnage de Maurice Denis, qui était Saint-Germanois et qui était ami de la famille Alain, membre des sociétés historiques, chrétien militant, etc., etc.
Et lui-même mélomane passionné.
Voilà.
Et dont nous avons ici, à l'Académie, le petit-fils, le sculpteur Antoine Poncet. Eh bien, peut-être un peu de musique tout de suite, puisqu'on parle d'un musicien.
Oui. Pour le premier extrait, si vous voulez bien, j'ai choisi une œuvre qui n'est pas pour orgue, volontairement. Choisi une œuvre de jeunesse de Jean Alain, un prélude pour piano, qui montre, je crois, toutes les facettes déjà de sa personnalité musicale.
Thank you.
Prélude pour piano de Jean Alain, vous disiez, Aurélie Decourt, qu'on entendait déjà les principales facettes de sa personnalité. Alors, je vous laisse commenter.
Oui, il me semble qu'on a déjà, bon, bien sûr, toute l'influence debussiste. Hein. Jean Alain jouait énormément de Debussy, était passionné de Debussy, était un pianiste virtuose. Longtemps, il a été beaucoup plus virtuose au piano qu'à l'orgue. Et il y a déjà cette patte personnelle avec les ruptures d'ambiance extrêmement nettes. Et puis ce rythme à la fin, ce choix de rythme et la fougue du jeune homme.
La motricité qui anime vraiment toute son œuvre. Alors, il a une vingtaine d'années et il joue fort bien du piano, vous le disiez, et de l'orgue, bien sûr. Ça, c'est une tare familiale. Alors, bon. Et il entre au conservatoire.
Il entre au conservatoire, voilà. D'ailleurs, cette pièce est écrite à peu près au moment où il entre en conservatoire, donc en 1929. Je rappelle qu'il est né en 1911. À l'âge de 18 ans, il entre au conservatoire, directement en classe d'harmonie. Et il va passer, alors au total, 10 ans au conservatoire, ce qui paraît long, bien entendu. Mais il faut dire que ce sont des années entrecoupées de 1000 autres activités. Ce qui fait que surtout dans les 5 dernières années, il ne peut pas se consacrer pleinement à ses études. Mais il a eu à cœur d'aller jusqu'au bout pour, comme on dit, décrocher le premier prix d'orgue. Donc, ce conservatoire, c'est toute une époque extraordinaire parce qu'il est donc tout jeune, plein d'énergie, plein de fougue, plein de fantaisie, mais en même temps plein d'ardeur à apprendre et vraiment une soif d'apprendre les règles musicales. Jean Alain est un compositeur qui est à la fois extraordinairement original, mais quelqu'un qui a complètement assimilé les règles. Et c'est, à mon sens, parce qu'il a précisément si bien assimilé les règles qu'il a pu ensuite les transcender complètement dans son écriture musicale. Donc, il est à la fois heureux et malheureux au conservatoire. Malheureux parce qu'il faut travailler énormément, que c'est difficile et qu'il aurait envie d'aller faire du vélo assis à l'envers sur le guidon, comme il le fait régulièrement. Il a envie de s'amuser avec les camarades de son âge. Donc, c'est une vie très, très entrecoupée, très heurtée, mais toujours pleine de passion.
Donc, il avait quand même commencé à apprendre la musique avant le conservatoire.
Oui, bien sûr.
Et je pense que son propre père n'y est pas étranger.
Oh, pas du tout, pas du tout. Figurez-vous que le petit Jean, né en 1911, est contemporain de l'orgue paternel que son père a commencé à construire en 1910, mais qui n'a parlé qu'en 1912. Donc, en fait, les premiers mots du petit garçon et les premiers sons de l'orgue sont strictement contemporains.
Très voilà. Bien. Alors, je précise pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de Jean Alain que son prénom s'écrit avec un H, comme on le faisait il y a quelques siècles. On ne dit pas Jean, naturellement, ce qui est ridicule, ça veut dire Jean, tout simplement, oui. Mais avec un H, ce qui veut dire, de la part de son père, quand même, une référence à l'histoire, au passé.
C'est surtout sa mère. C'est sa mère qui a choisi cette orthographe pour, petit clin d'œil au Moyen-Âge, à la littérature de manière générale. Alors, dans cette maison de la rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye, donc trônait l'orgue de salon énorme.
Oui, qui mangeait tout l'espace.
Absolument écrasant, dans le salon. Mais il y avait également un piano à queue, bien entendu, un harmonium. Et puis, aux différents étages de la maison, il y avait des petits pianos droits un peu partout. Parce que Albert Alain, donc le père de Jean, mon grand-père, donnait des leçons. C'était un complément indispensable à la vie un petit peu difficile de musicien liturgique. Donc, il donnait des leçons et il fallait plusieurs instruments pour que tout le monde puisse jouer. Et les enfants naissants, il y eut 4 enfants. Jean est l'aîné, mais il y a eu ensuite Marie-Odile, Olivier et Marie-Claire. Eh bien, il fallait un instrument pour chaque enfant, bien entendu. Plus l'orgue, qui n'arrivait que comme récompense quand on avait bien travaillé son piano. Donc, voilà, énormément d'instruments qui jouaient tous un peu en même temps dans cette maison.
Et toujours du clavier. Il n'y a pas eu de tentative vers le violon?
Non, vous avez raison. C'est très frappant et c'est uniquement le clavier.
Ce que j'allais faire, évidemment, à la comparaison facile avec la famille Bach. On sait que chez M. Bach, à Leipzig, il y avait 11 instruments à clavier parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Les élèves, exactement la même chose, mais on pratiquait aussi le violon. À l'époque, il y avait des musiciens polyvalents, ce qui s'est beaucoup moins fait après, naturellement.
Non, les Alain étaient vraiment très centrés sur le clavier. Alors, en revanche, ils jouaient au clavier tout ce qu'ils pouvaient comme musique orchestrale, ou vocale, etc., en réduction, comme ça se faisait énormément à la fin du 19e siècle.
Avant le disque.
Voilà. Évidemment. On a tous ces volumes encore magnifiques de réduction, d'opéra, de symphonie, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, ils se jouaient cette musique-là au clavier.
Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que votre grand-père, Albert Alain, était lui-même compositeur et même auteur d'une œuvre considérable.
Il
plus
était
de 400 œuvres, non
469 numéros, voilà, ouais, absolument. Ouais. Oui, 469 numéros. Il faut dire qu'il y en a un bon nombre qui sont de courtes pièces, puisque ce sont des pièces vocales. Albert Alain, oui, avait déjà un vrai jaillissement créatif. Il n'avait pas de mal du tout à composer. Il aimait cela et il vivait à une époque bénie, avant 1914, où on pouvait gagner de l'argent en publiant sa musique.
Ah oui.
Et où on lui passait commande de pièces religieuses, puisqu'il s'était un peu spécialisé dans la musique vocale religieuse.
On ne parlait pas encore d'intimidation sociale, comme on le fait aujourd'hui. Il paraît que c'est très, très à la mode, très chic. Bien. Donc, ce qui veut dire que Jean Alain a été tout de suite dans un milieu où non seulement la musique était le pain quotidien, mais même la création musicale.
Oui, oui, oui.
Il entre au conservatoire dans les classes d'écriture.
Dans les classes d'écriture directement. Et il a toujours voulu rendre hommage à son père en disant que son père lui avait laissé l'imprégnation d'une musique pure et d'un métier impeccable. Ce sont ses propres mots. Donc, il avait beaucoup d'estime pour la musique de son père. Il y a d'ailleurs une très jolie anecdote. En 1935, Albert Alain s'est brutalement arrêté de composer parce qu'il a entendu les dernières œuvres de Jean, de son fils Jean. Donc en 1935, c'était déjà la suite pour orgue, c'était déjà la première fantaisie, l'intermezzo. Et il a dit, si c'est cette musique-là que l'on fait maintenant, moi je n'ai plus rien à dire, je me tais. Et Jean était bouleversé et il a supplié son père de recommencer à écrire en disant, si papa n'écrit plus, c'est le plus grand compositeur actuel de musique religieuse qui se tait. Et Albert Alain s'est remis à écrire.
C'est très beau. Merci. Alors donc, la récompense suprême est arrivée, c'est-à-dire qu'il a eu le droit de jouer de l'orgue et qu'il l'a fait magnifiquement. Si j'ai les témoignages qu'on peut lire, oui. Il a d'ailleurs été en classe d'orgue, il avait des camarades de...
Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a eu comme professeur d'orgue le fameux Marcel Dupré, grand professeur du conservatoire, qui avait été le camarade de son père, puisque Albert Alain était déjà au conservatoire. Et Albert Alain et Marcel Dupré étaient en même temps en classe d'orgue, mais c'est Marcel Dupré qui a obtenu le premier prix au concours de 1907 devant le pauvre Albert Alain.
Bon, et qui est ensuite devenu Grand Prix de Rome. Et professeur,
et professeur, et dont Marcel Dupré a un rôle écrasant aussi dans la famille Alain, puisque après avoir été donc camarade d'Albert, il a été professeur de Jean et professeur de Marie-Claire.
Qui, si je ne me trompe, n'en a pas gardé un souvenir très ému.
Souvenir mitigé, mais bon, il y aurait beaucoup à dire, elle reconnaissait...
Sur le plan technique,
ah oui,
évidemment. Mais c'est aussi l'époque où l'esthétique même du jeu de l'orgue a tellement évolué qu'il était d'un autre âge et il n'a pas, évidemment...
Alors, lorsque Jean était en classe d'orgue chez Marcel Dupré, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Jean avait un petit peu de mal à apprendre les pièces d'orgue aussi rapidement que Marcel Dupré le souhaitait. Il fallait en apprendre au moins un ou plusieurs par semaine et Jean avait du mal.
C'était la haute école, hein,
oui,
avec
oui,
Dupré.
Oui. Et d'autre part, il avait un petit peu de mal avec les exercices terriblement fixes, les fugues d'école par exemple, il avait beaucoup de mal. En revanche, Marcel Dupré lui passait tout parce que c'était un excellent improvisateur. Et les autres camarades, là nous avons plusieurs témoignages, dont celui de Marie-Louise Giraud ou de Pierre Segond, disant « quand il s'agissait d'improviser, on exigeait que Jean passe en dernier ». Parce qu'une fois qu'il avait improvisé, nous, on ne pouvait plus.
C'est très joli. Alors, vous avez cité deux de ses camarades, il y en a eu d'autres, très célèbres, dans le milieu de l'orgue en tout cas, Maurice Duruflé.
Ils n'ont jamais été strictement ensemble.
Pas en orgue, oui.
Non, il était un peu plus âgé, Maurice Duruflé.
Gaston Litaize.
Litaize, absolument, oui. Gaston Litaize.
Jean Langlais, peut-être.
Jean Langlais, oui.
Oui, enfin, une magnifique génération.
Ah, oui. Bon.
Alors, puisqu'on parle d'orgue, si on écoutait un peu d'orgue.
Bonne idée.
Thank you.
Le jardin suspendu était une pièce très importante pour Jean Allain. Il l'a qualifié lui-même comme étant l'idéal inaccessible et fugitif de l'artiste. Et dans un autre écrit, son frère Olivier dit « On peut très bien assimiler ce jardin suspendu à la très haute montagne », dans cette idée donc de refuge évidemment inaccessible. Toutes les pièces de Jean Allain portent un titre, c'est très intéressant. Et il y a donc dans ce titre « Jardin suspendu » évidemment toute la réminiscence des jardins suspendus de Babylone, de Sémiramis, reine de Babylone, toute cette histoire qui était importante dans la famille Allain. Il se racontait toutes ces choses-là. Et il y a du rêve, bien entendu, mais aussi la présence d'un Orient que je qualifie de fantasmé. Jean Allain aime beaucoup les choses orientales, il le dit dans une lettre. J'aime beaucoup les lanternes violettes, les choses orientales. Il dit aussi « j'ai du sang de bonze ou de lama dans les veines ». Donc tout ce qui vient d'Orient le fascine, ça se voit très très bien dans son inspiration musicale. Mais le jardin suspendu, il y revient plusieurs fois au cours de sa correspondance ou de ses écrits, en disant en substance qu'il aimerait bien un jour y parvenir, mais c'est inaccessible, mais qu'il tend vers ce refuge à côté de la laideur, de la mesquinerie du monde de tous les jours.
Et c'est en même temps une façon d'exprimer sa spiritualité.
Tout à fait. Alors c'est également parfaitement mystique. On l'entend d'ailleurs dans la musique. Et puis, dernier point, c'est aussi une manière de mettre en valeur les sonorités de l'orgue paternel, de l'orgue Allain. Cette pièce a été composée sur l'orgue paternel et on entend très bien ces jeux qui sont très souvent joués, choisis seuls, hein, sans mélange, pour avoir donc des sonorités très particulières.
Et très pures.
Très pures, subtiles, douces, hein, puisqu'un orgue de salon délivre des sonorités douces, un petit peu étouffées.
Alors, il n'y a pas que l'orgue, ni le piano, il y a une musique symphonique, il y a également de la musique chorale et de la musique vocale.
Oui.
Et je crois qu'on a retrouvé beaucoup d'œuvres qui n'avaient pas été éditées, dans les archives familiales notamment.
Il aimait beaucoup la musique vocale, il aimait beaucoup la voix. Alors la voix, de préférence, la voix là encore très, très pure, pas la voix d'opéra. Il dit lui-même ne pas apprécier la voix d'opéra. On pourrait dire, sans grand risque de se tromper, qu'il avait déjà le goût pour les voix baroques, avec 20 ans d'avance, mais c'était ça qu'il aimait. Hein. Donc il aimait les voix des petits-enfants quand ceux-ci chantaient à l'église, bien qu'il se plaigne, comme tout le monde, que les petits-enfants chantent faux, mais il aimait bien le timbre des petits-enfants. Et il aimait aussi beaucoup le timbre de sa sœur Marie-Odile, donc de sa sœur cadette, qui avait 3 ans de moins que lui, et qui, comme tous les enfants Allain, était une parfaite pianiste, une excellente organiste. Mais ce qu'elle avait en plus des autres, c'est d'avoir travaillé sa voix. Elle avait une très belle voix de soprano. Et comme c'était une excellente musicienne, évidemment, elle chantait très très bien. Et Jean a composé pour elle un certain nombre de pièces, dont la vocalise dorienne qui a été composée dans l'abbaye de Valoir. On peut peut-être dire aussi un petit mot de l'influence de cette abbaye de Valoir. Valoir est dans la Somme et c'est une splendide abbaye du XVIIIe siècle, enfin dont les bâtiments datent du XVIIIe siècle, absolument magnifique, avec une chapelle dans laquelle se trouve un orgue qui date du XVIIIe siècle, un petit peu refait au XIXe siècle, mais qui, pour Albert Allain et son jeune fils Jean, représentait dans les années 20 l'idée qu'il se faisait d'un orgue ancien. On est dans les années 20, hein. On n'entend pas encore beaucoup d'orgues anciens. Jean Allain et son père étaient des pionniers en ce domaine. Ils étaient passionnés par les sonorités anciennes. Ils voulaient les retrouver. C'est pour cela qu'Albert Allain a créé sur son orgue des jeux particuliers pour jouer les maîtres anciens, pour jouer Jean-Sébastien Bach, hein, mais aussi Buxtehude, qu'il jouait déjà beaucoup, Albert Allain, et Pachelbel, Muffat, etc. Hein, très tôt, dès les années 1910, Albert Allain jouait ces compositeurs-là. Et alors, chez Jean Allain, chez son fils Jean Allain, c'était une passion encore plus importante que cette musique ancienne qui lui semblait, à Jean Allain, plus directe, plus intéressante à cette époque-là de sa vie et de son évolution que la musique symphonique de la fin du XIXe siècle. Il a une phrase un petit peu dure sur la musique de Vincent d'Indy et il préfère Clément Jeannequin à Vincent d'Indy, on va dire, pour aller vite.
Je n'oserais pas dire personne n'est parfait, mais enfin, je dirais plutôt comment on le comprend. Eh bien, vous avez évoqué la vocaliste dorienne.
Oui.
Nous l'écoutons.
Avec plaisir.
La vocalise dorienne de Jean Alain.
Composée pour sa sœur Marie-Odile, donc dans la chapelle de l'abbaye de Valloire.
Et qui fait partie de ces œuvres retrouvées, mais que l'on a éditées, que l'on joue et que l'on exécute. Moi, j'ai entendu au concert.
Oui, c'est que l'on joue assez, que l'on donne assez régulièrement.
C'est une œuvre extrêmement prenante.
Oui, et elle illustre également, là, à nouveau, l'aspect chrétien de Jean Alain. C'était un chrétien profondément croyant, bien entendu, après quelques doutes dans la jeunesse.
Comme tous les grands chrétiens, d'ailleurs.
Absolument.
C'est normal.
Absolument. Donc, il a composé pour partie une musique religieuse, une musique d'inspiration religieuse ou à usage religieux. Lui-même étant organiste liturgique, comme son père, il lui fallait bien gagner sa vie, y compris donc lorsqu'il était encore étudiant au conservatoire, ce que je disais tout à l'heure. Dès qu'il est entré au conservatoire, il a commencé à gagner un petit peu d'argent. Et puis progressivement, il est devenu titulaire d'un certain nombre de tribunes. Alors, il était titulaire de Saint-Nicolas de Maisons-Laffitte, comme son père l'avait été avant lui. Et une chose un petit peu originale, il est devenu titulaire de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth à Paris, oui, parce que c'est une synagogue un petit peu exceptionnelle dans laquelle se trouve un très bel orgue et que les responsables de la synagogue recherchaient évidemment un organiste qui ne soit pas juif pour pouvoir jouer le jour du sabbat.
Ah oui,
tout évidemment. Simplement. Et donc Jean Alain a accepté. Parce que ça l'arrangeait beaucoup, ça lui permettait comme ça de jouer le samedi, d'avoir un petit cachet, de jouer le dimanche ensuite, d'avoir un autre petit cachet. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé récemment. À partir du moment où il rentre dans cette synagogue, donc il accompagne des mélodies liturgiques juives. Et cela va ranimer beaucoup de choses dans son inspiration, à mon avis, qui sont reliées à cet Orient dont je parlais tout à l'heure, à cette inspiration des mélodies orientales, mais aussi de la monodie, mais aussi et surtout du grégorien, puisque les organistes, par fonction, sont complètement plongés dans le grégorien, sont d'excellents connaisseurs du chant grégorien, surtout à cette époque-là. L'organiste non seulement accompagne le grégorien, mais improvise sur les thèmes grégoriens du jour. Donc, Jean Alain, comme tous les organistes, connaissait le chant grégorien sur le bout des doigts. C'était totalement intégré à sa personnalité musicale. Et lorsqu'il entend ces mélodies juives, qu'il réfléchit à ces mélodies juives, eh bien, il fait le parallèle avec les mélodies grégoriennes et avec cette manière de composer de la musique.
Et du même coup, ce ne sont plus forcément les tonalités majeures et mineures, mais les modes. Les modes ecclésiastiques, comme on les appelle, voilà. les modes anciens.
Bien
et
sûr.
Puis une souplesse rythmique, puisqu'il n'y a pas de mesure et de barre de mesure.
Exactement. Alors, au sujet de ces modes anciens, donc, il y a encore une autre influence très importante, qui est l'influence de Maurice Emmanuel, qui était un très grand ami d'Albert Alain, et qui, comme vous le savez, a lutté toute sa vie contre le tyran Hutt, et qui voulait donc que l'on mette à égalité tous les modes et la tonalité de Do majeur, bien sûr. Et Albert Alain donc avait appris à accompagner le grégorien selon la méthode de Maurice Emmanuel, c'est-à-dire avec très très peu d'accords, et puis un accompagnement modal le plus possible. La musique composée par Albert Alain est déjà très très modale. Et alors chez Jean Alain, c'est totalement intégré. Jean Alain accompagne le grégorien comme son père, c'est-à-dire pas exactement comme Solem, pas exactement comme la méthode la plus couramment employée, une méthode légèrement différente. Et alors, il est complètement passionné par les théories de Maurice Emmanuel et il écrit un certain nombre de pièces. Par exemple, en mode dorien, la vocaliste que nous avons entendue s'appelle dorienne parce que c'est le mode de mi, ça n'est pas le mode ecclésiastique, c'est le mode grec, selon Maurice Emmanuel, celui que Maurice Emmanuel appelait la doristie, qui est choisi dans cette œuvre-là, ou bien par exemple dans le choral dorien de Jean Alain. Donc toujours cette importance de la modalité, bien entendu.
Alors, à nouveau un peu d'orgue, puisque vous faites allusion à sa carrière d'organiste à la synagogue et à l'église. Il n'a d'ailleurs pas écrit, corrigez-moi si nécessaire, de musique strictement liturgique.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Messiaen a écrit des œuvres qui, enfin, en tout cas avec la messe de la Pentecôte, mais qui sont destinées à un usage très précis au cours d'une liturgie. Ce n'est pas le cas de Jean Alain.
Ce n'est pas le cas de Jean Alain, non. En effet, il a écrit quelques messes, nous avons trois ou quatre messes, donc
oui,
là,
pour
des œuvres de circonstance. Oui, oui, et absolument.
Et pour l'orgue, non, ce qui peut paraître assez paradoxal, mais quel chef-d'œuvre aussi nous a-t-il laissé ? Vous avez apporté la deuxième fantaisie.
J'ai apporté la deuxième fantaisie, oui, parce que je voudrais maintenant donner un petit peu de gaieté et souligner le fait que Jean Alain était un personnage extrêmement fantaisiste, extrêmement gai, extrêmement fantasque même, et que donc ce terme de fantaisie, qu'il a lui-même choisi, bien sûr, pour cette pièce, illustre très bien et la personne et la composition de la pièce.
Un extrait, malheureusement pas plus, mais le temps nous manque évidemment pour écouter plus avant toutes ces œuvres admirables, magnifiques et surtout qui témoignent vraiment d'un univers intérieur immédiatement perceptible. On est capté immédiatement par moi, ce que j'appelle une vision, une conception, enfin un monde intérieur qui nous happe littéralement. Hein. Il fait toujours cet effet-là. Mais alors vous avez insisté tout à l'heure, juste avant d'écouter cet extrait de la deuxième fantaisie, sur la gaieté de Jean-Alain, son côté fantasque. Alors moi, je voudrais reprendre la parole pour dire qu'il y a toute une correspondance. Mais là, je renvoie à votre livre. Vous avez publié un gros livre qui est magnifique parce que c'est une biographie avec beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et puis alors, toute la correspondance. Et la correspondance est illustrée par Jean-Alain lui-même qui avait un sens du dessin, du croquis. Il avait une façon de croquer sur le vif des attitudes, des personnages. Et les personnages qui révèlent tout un monde intérieur avec une espèce de lutin, de polichinelle, de c'est facétieux, c'est poétique aussi. À tout son langage, vous décryptez les surnoms qu'il donne à tout le monde. Mais c'est un univers absolument enchanteur. Racontez-nous un peu quand même cette correspondance.
Oui, alors Jean-Alain était quelqu'un de très drôle et surtout qui aimait faire rire les autres. Donc, il s'exerçait sur sa petite famille. Ça marchait très bien, en particulier avec son jeune frère où ils rivalisaient de jeux de mots tous les deux. Avec sa petite sœur aussi, pour laquelle, là aussi, il écrivait des jeux de mots, il dessinait, il racontait des histoires. C'était une époque merveilleuse où l'on écrivait beaucoup. Et Jean-Alain écrivait vite et facilement. facilement. Il aimait cela. Il a d'ailleurs une jolie écriture, une jolie graphie. Et heureusement, donc, nous avons conservé énormément de lettres ou d'écrits, tout simplement. Nous en avons plusieurs centaines. Et ces lettres adressées donc à sa famille ou à ses amis sont effectivement pleines de fantaisie, pleines de drôlerie. Il raconte sa vie quotidienne et puis tout d'un coup, il s'arrête pour dessiner parce que le dessin va permettre de mieux exprimer ce qu'il pense exactement à ce moment-là. Son premier mode d'expression, c'est la musique, mais après, il y a le dessin, l'écriture, on pourrait dire à égalité. Dommage qu'il ne nous reste pas de film, parce qu'il y aurait sûrement eu aussi un langage gestuel, puisque c'était quelqu'un d'extrêmement sportif, souple, acrobate. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il faisait du vélo assis à l'envers sur son guidon. Après, il a fait de la moto, il a roulé à moto.
Et d'ailleurs, c'est en motocyclette qu'il a été tué.
Pratiquement,
enfin,
il était
agent motocycliste.
Il était
agent de liaison motocycliste.
Voilà, agent de liaison motocycliste. Donc, il faisait littéralement les 400 coups, ce qui remplissait sa mère de terreur. Voilà, donc il aimait beaucoup faire rire. Et alors oui, sa correspondance est très poétique souvent. En effet, il raconte ses rêves éveillés. Il a toute une phase, en effet, médiévale, où il s'intitule lui-même Jean Croquenotte. Où il écrit en imitant les lettres gothiques, etc. Et c'est aussi extrêmement précieux pour la fin de sa vie, puisque comme il a été mobilisé tout de suite, les 9 mois de la drôle de guerre nous valent pratiquement une lettre par jour.
Il avait déjà une épouse et les 3 enfants.
Et les 3 enfants,
qui étaient nés à ce moment-là. Il y a une dimension tout de même qu'on n'a pas évoquée dans cette correspondance, mais qui me touche énormément, c'est quand même un sens du drame. Il y a des moments qui sont absolument poignant. On sent affleurer une espèce de souffrance intérieure.
Oui, dont il fait état, parfois même carrément, dans quelques lettres. Il parle, c'est très joli d'ailleurs, il est à la montagne, il dit combien la montagne est belle, apaisante, lui fait du bien. Et il dit, même cette petite douleur latente que l'on porte toujours au fond de soi, même cette petite douleur semble s'atténuer un peu.
Est-ce que j'ose vous poser une question ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de désespéré au fond de lui ?
Désespéré, moi, je ne crois pas, parce que c'est un chrétien. Donc, le chrétien a toujours de l'espoir.
Oui. Une tendance...
Il y a une angoisse énorme, je crois.
Oui.
Je crois que c'est de l'angoisse face à la vie. Il y a aussi un autre très beau passage où il dit « Quand je serai mort, est-ce que quelqu'un se souviendra de moi ? Aurais-je su faire un peu de bien autour de moi ?» Donc, il y a cette inquiétude sur ce qui va se passer. Ensuite, il y a des inquiétudes extrêmement matérielles, puisqu'il se marie jeune alors qu'il gagne peu d'argent. Il a tout de suite beaucoup d'enfants, donc il faut gagner sa vie. Il a aussi envie de faire une carrière, bien entendu. C'est pas quelqu'un d'orgueilleux, mais c'est quelqu'un qui est conscient quand même de sa valeur. Donc, il voudrait faire sa carrière, il n'y arrive pas. Il tente des candidatures pour être organiste ici ou là, à Versailles, à Paris, etc. Ça ne marche pas. Donc, il y a un moment très difficile, en effet, en 36-37. Et puis alors, en 1937, sa sœur, celle qui chantait, voilà, sa sœur se tue dans un accident de montagne. Et là, la personnalité de Jean-Alain devient beaucoup plus sombre. Le côté sombre prend un petit peu le dessus, pas complètement, mais un peu le dessus, c'est vrai.
Alors cette angoisse, et même à ce moment-là, ce cri de désespoir, ce sont les litanies,
oui,
qui sont aujourd'hui l'une des œuvres d'orgue du XXe siècle les plus jouées à travers le monde. Votre mère, la chère Marie-Claire Alain, joue ça systématiquement en bis à la fin de tous ses concerts.
Oui, oui.
Et comme elle a raison, et c'est ce qu'on attend d'elle, bien entendu, cet hommage à son frère qu'elle a si bien servi, enregistré, publié, édité, et ces litanies qui sont... Alors là, quand même, on est au bord du désespoir. Quand même.
Tout
c'est
à fait,
une
oui,
angoisse
c'est
terrible.
C'est
hein.
vrai, c'est vrai. Alors, elles ont été composées, en fait, avant la mort de Marie-Odile.
Oui.
Donc, toute la musique existe avant la mort de Marie-Odile. Simplement, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement quand il a ajouté cette exergue tellement désespérante, quand l'âme chrétienne ne trouve plus de mots dans sa détresse pour implorer la miséricorde divine. Elle se contente de répéter toujours la même chose. Les litanies sont une œuvre extrêmement intéressante à tous égards, mais rien qu'au point de vue du titre, du genre, puisque c'est une œuvre qui a une connotation religieuse a priori, mais peut parfaitement être jouée ailleurs qu'à l'église, et Jean le voulait, car une de ses idées obsessionnelles était de sortir l'orgue de l'église, afin d'en faire un instrument aussi, comment dirais-je, aussi bien, aussi valable que les autres. Il y avait une sorte de complexe chez les Alains de n'être que des organistes et d'être relégués dans les églises, alors que les pianistes ou les chanteurs ou les violonistes jouissaient d'une meilleure réputation.
Et en plus, on les voit, tandis que ce n'est pas le cas généralement des organistes. Et ce que vous dites là, aujourd'hui, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, dans beaucoup de pays, on voit l'organiste et il y a des salles de concert équipées d'orgues, sauf en France. Et là, ça fait partie de nos exceptions culturelles.
Je pense que Jean Alain aurait rêvé d'instruments de concert dans des salles magnifiques.
Oui, certainement. Merci de dire que ces litanies sont, pour tout homme de bonne volonté,
oui,
un appel,
voilà, absolument,
une sorte d'appel au secours. Et c'est construit sous une forme litanique, donc une espèce d'obsession, oui, d'un motif rythmique qui devient envahissant, obsessionnel.
Obsessionnel, qui est une des caractéristiques de la musique de Jean Alain, cette musique incantatoire, on a pu dire.
Incantatoire, oui. Bon, on écoute le début des litanies. Les litanies de Jean Alain sont tellement envoûtantes, obsessionnelles, inquiétantes aussi. On n'en sort pas indemne de cette œuvre, qui est relativement courte, qui dure moins de 5 minutes, qui est jouée, je disais, partout au monde, et toujours avec un succès extraordinaire.
Elle a même été choisie pour le baccalauréat option musique en 2007-2008, ce qui a été une formidable occasion de faire découvrir l'orgue aux jeunes gens.
Qui jouit d'un magnifique mépris dans notre ou d'un désintérêt, simplement parce qu'on ne le connaît pas. Quand on entend des pièces comme ça, on est immédiatement convaincu. Alors ce qui est curieux, c'est que Dieu sait si Jean Alain se montre profondément spirituel dans ses œuvres d'orgue, mais pas liturgique. Mais il y a aussi toute une partie liturgique de son œuvre,
oui,
qui est destinée à l'Église cette fois-ci.
Qui est destinée à l'Église.
Au
alors,
cœur.
Ce sont souvent des œuvres de commande, mais enfin bon, ça ne gêne pas du tout. La messe modale, par exemple, alors illustre ce que nous disions tout à l'heure sur l'importance des modes dans sa propre musique. Et puis, elle a été composée aussi pour des cordes, une flûte et deux voix de femmes. Donc on fait le lien avec ce que je disais sur l'amour des voix, en particulier des voix féminines, et puis la volonté d'avoir d'autres instruments aussi que l'orgue dans la musique de Jean Alain. Il a écrit des œuvres pour d'autres instruments, mais pas énormément. Et là, moi je pense, je ne suis pas la seule d'ailleurs, je pense que c'est simplement par manque de temps. N'oublions pas qu'il est mort à 29 ans. Il était au conservatoire, donc il devait jouer beaucoup d'orgue, il assurait ses services pour gagner sa vie. Il n'avait tout simplement pas le temps de se mettre à l'écriture pour cordes, enfin l'écriture compliquée pour cordes, etc. Alors, il l'a fait à la fin, on le verra pour les trois danses, mais dans ces années 37-38, il n'en a pas le temps. C'est certain que s'il avait vécu, il aurait composé pour les autres instruments.
Alors vous évoquez la messe modale, nous écoutons le Sanctus de cette messe modale. Je pense, de façon un peu perfide peut-être, qu'on serait tellement heureux que dans les célébrations religieuses, il y ait une musique aussi belle que celle que nous venons d'entendre. Alors il va être temps de conclure sur cette personnalité extraordinaire de Jean Alain, dont je rappelle que le monde musical célèbre en 2011 le 100e anniversaire de naissance et qui, hélas, est tombé au champ d'honneur en 1940, donc à 29 ans. Quelques mots sur ces dernières années, peut-être, le soldat Jean Alain.
Le soldat Jean Alain, oui. Jean Alain s'est retrouvé mobilisé parmi les premiers dès le 1er septembre 1939, bien qu'il ait déjà eu deux enfants et sa femme en attendait un troisième. Mais il était en fait simplement deuxième classe parce que par un concours de circonstances qui devait beaucoup à sa propre personnalité, il n'avait pas réussi au cours de son service militaire à gravir les échelons des officiers. En effet, on va dire pour aller vite, mais c'est la vérité, qu'il y avait eu un petit peu de malveillance de la part de ses supérieurs qui le trouvaient extrêmement commode au régiment, car Jean Alain au régiment se transformait en animateur tout à fait extraordinaire. Il créait des spectacles, il créait des chorales. Il allait discuter avec ses camarades de la CGT, par exemple, pour les convaincre que ce qu'ils pensaient n'était pas juste. Et il était extrêmement précieux pour occuper le soldat.
Le sanctus de la
messe
modale.
Et puis, pendant son service militaire, il a été gravement malade et horriblement mal soigné par l'armée française. Si bien qu'en 1939, il se retrouve simple deuxième classe. Et il est donc envoyé en cantonnement sans rémission. Et même la naissance de son troisième enfant en novembre 1939 ne lui permettra pas de revenir dans ses foyers. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va se retrouver lors de la bataille de France, à partir du mois de mai, en première ligne, parce qu'il est simple soldat. Donc c'est un concours de circonstances vraiment très malheureux, surtout qu'il avait quand même l'étoffe d'être autre chose qu'un deuxième classe. Alors son amour de la mécanique, puisqu'il avait une moto, son amour de la mécanique l'a amené à demander à être affecté dans les camions. Donc, il était mécanicien de camion.
Le train, ce qu'on appelle le train.
Ouais. Il avait les mains dans le cambouis. Alors, il se lamentait sur ses pauvres mains d'organiste qui ressemblaient à des sabots de cheval. Et puis, pendant la drôle de guerre, où, comme tout le monde le sait, les soldats français ne faisaient rien et s'ennuyaient, eh bien, à nouveau, il a créé une chorale, il a harmonisé des chants pour ces hommes qui ne connaissaient pas la musique et il s'est révélé extrêmement précieux pour ses supérieurs.
Et donc, quelques mois après, donc en juin...
Alors oui, lorsque 40, la bataille de France se déclare... Il est sur le front, il va jusqu'à Dunkerque, donc il se trouve dans l'enfer de Dunkerque, après avoir rempli des missions extrêmement périlleuses qui lui ont valu la croix de guerre. Et de Dunkerque, il est sauvé, il passe en Angleterre, puis il retourne en France où il est sorti de son corps en quelque sorte. Il n'y a plus de régiment à ce moment-là. Mais là, il choisit de s'agréger à un corps franc qui va se retrouver à Saumur. Et donc, il participe à la bataille de Saumur. Alors, parfois, on le confond avec les cadets de Saumur. Non, il ne faisait pas partie des cadets de Saumur, mais il s'est battu les mêmes jours que les cadets de Saumur et au même titre. Et donc, la fin de Jean Alain est tout à fait héroïque, c'est-à-dire qu'il se porte volontaire pour une mission de reconnaissance à moto. Donc, il part avec sa moto et là, il voit un détachement allemand qui avait traversé la Loire et qui remontait le coteau de Petit Puy et ne voulant pas s'en aller. C'était pas possible dans son esprit. Donc, il a fait face. Il a abattu un certain nombre de soldats allemands au point que le chef du détachement lui a fait rendre les honneurs après coup. Mais évidemment, il y avait beaucoup plus de soldats. Il était tout seul. Donc, lorsque son fusil a été vide, il a enrayé son fusil et il a attendu la mort en face. Donc, c'était le 20 juin. Et c'est ce qui est absurde, c'est que la nouvelle de l'armistice est arrivée. Enfin, la nouvelle qu'il fallait arrêter les combats en attendant la signature de l'armistice est arrivée dans les heures qui suivaient. Vraiment dans les heures, hein, dans l'après-midi.
Et il lui laisse une œuvre qui est considérable parce qu'il y a ce qu'on joue souvent, les pièces d'orgue, mais beaucoup d'autres choses. On a eu un très bel échantillonnage. Merci d'avoir choisi ces pièces tellement émouvantes et tellement belles. Une œuvre qui est très importante, qui est éditée maintenant.
Oui, toute l'œuvre est éditée, pratiquement tout. Marie-Claire Alain s'est efforcée de tout faire éditer. Vraiment.
Il y a ce gros livre que vous avez publié avec, qui est une monographie et aussi une correspondance avec les illustrations. Il y a, qui est aux éditions Compact, qui est paru il y a 5 ans,
à peu près, en 2005.
Il y a, je crois, un autre livre en préparation.
Un autre livre en préparation, oui, mais qui est de plus petite dimension et qui est sur la famille Alain. Donc là, sur le père Albert et les 4 enfants Alain.
Et puis, on a évoqué l'orgue de la famille Alain. Je l'ai vu, non pas malheureusement, rue de Pologne, mais là où il est maintenant.
Oui, il est très bien. Il est dans un écrin magnifique. Dans une abbaye romane en Suisse, à Romainmôtier, dans le Jura suisse. Il a été récupéré par l'association Jean Alain de Suisse, dont le principal dirigeant est Guy Beauvais.
Qui est un magnifique organiste, voilà. Ami de la famille.
Voilà, qui s'est donné beaucoup de mal pour reconstruire cet orgue. Et cet orgue est reconstruit. Il est superbe, il marche mieux qu'avant. Et surtout, il est utilisé pour des cours, pour des académies, pour des concerts. Donc, c'est un instrument vivant.
Et je peux ajouter que si vous passez par Romain Mautier, d'une part, l'abbaye est un endroit magique, un chef-d'œuvre de l'art roman. Il y a d'ailleurs un livre du Zodiac qui est consacré au moins en partie à Romain Mautier. Et puis, on peut venir voir et écouter l'orgue.
On peut demander à
on peut demander, il faut prendre téléphoner. Que
voilà,
c'est
très,
très simple.
Gentils.
Ils sont très gentils.
Ils sont très gentils.
Eh bien, je crois qu'il me reste à vous remercier, chère Aurélie Decourt, non sans indiquer tout de même qu'il vous avait créé organiser de toutes pièces et du travail artisanal de haut niveau un colloque à Saint-Germain-en-Laye, bien entendu. Il y a une journée et demie de colloque. Il y a 3 concerts exceptionnels. Cela se passe le dernier week-end du mois de mars 2011, c'est-à-dire 25, 26, 27 mars, que participent un certain nombre des plus grands musiciens au monde, connaisseurs de l'œuvre de Jean Alain, qui se trouvent être des amis, John Grew, qui est professeur à McGill University à Montréal, James David Christie, qui est un extraordinaire musicologue, musicien, organiste américain, qui donne des cours en France également, l'ami Georges Guillard, qui n'est pas inutile de présenter, Philippe Lefebvre, organiste à Notre-Dame, et évidemment le parrainage de Marie-Claire Alain, votre mère, qui a tant fait pour l'œuvre de son frère, et puis quelques autres participants peut-être, qui restent encore à déterminer, même beaucoup je crois.
Beaucoup d'autres encore, de France comme d'étrangers, oui, oui.
Alors, pour conclure, on pourrait entendre ce chef-d'œuvre
voilà,
des 3 danses.
Le chef-d'œuvre dont les feuilles de papier s'envolaient dans les champs de Petit Puy après la mort de Jean Alain. On ne saura jamais ce qu'était exactement cette musique, mais les témoins ont dit que la musique s'envolait dans les champs. Les 3 danses, c'est son chef-d'œuvre. C'est une œuvre très émouvante aussi du point de vue historique, car Jean Alain l'a retranscrite pour orgue, car elle est conçue pour orchestre à l'origine. Il l'a retranscrite pour orgue lorsqu'il était à l'armée. Il l'a envoyée par la poste à son ami Noélie Pierron le 1er mai 1940, et la partition est arrivée miraculeusement quelques jours avant l'offensive allemande. Donc, les 3 danses.
Et les seuls titres des 3 danses résument, je crois, assez bien tout le parcours et la personnalité de Jean Alain. Les 3 titres au pluriel, tous les 3, joie, deuil et lutte. Et pour conclure, nous avons choisi joie, bien sûr.